les enjeux internationaux.
Thierry Garcin, vous allez nous parler ni du Venezuela, ni du Belize, mais de...
Pas tant que ça, non, de la Chine. Le temps de rappeler le partenariat avec le dessous des cartes, et donc partenariat avec les enjeux internationaux. Demain, sur Arte, 19h30, il s'agira du rêve californien, mais avec un point d'interrogation à la fin. Nous passons tout de suite, donc sans transition, à la Chine. Le titre proposé, une politique énergétique remaniée. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce titre. Jean-François Dufour, vous êtes responsable du China Control Panel de Monsalvi Consulting. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que la Chine a besoin de beaucoup d'énergie au pluriel, pour assurer la croissance, qui elle-même permet d'acheter la paix sociale. Il est de plus en plus difficile de résoudre cette équation. Alors, pour le pétrole, la Chine n'est plus autosuffisante depuis le milieu des années 90. Elle reste géographiquement hautement dépendante du Moyen-Orient. Elle n'a pas assez de gaz. Le charbon est très polluant et elle produit presque la moitié du charbon mondial. Puis, il faut parler d'autres sources d'énergie. Quel est, au fond, le tableau général et quel est le contexte aussi présent de la Chine en la matière, Jean-François Dufour?
Alors, le tableau général, le premier élément, c'est celui que vous rappeliez, c'est le fait que la Chine a des besoins absolument énormes en énergie, même dans le contexte de relatif ralentissement qui est le sien aujourd'hui, puisque depuis 2010, la Chine est devenue le premier consommateur mondial d'énergie, et depuis 2011, le premier consommateur mondial d'électricité, puisque la donnée de 2010, c'était l'énergie au sens général. Donc, le résultat, c'est que la Chine, aujourd'hui, consomme presque un quart de l'énergie consommée dans le monde, et avec d'énormes enjeux qui ont amené un remaniement profond de sa politique énergétique récemment, qui sont liés aux problèmes environnementaux.
Alors, est-ce qu'on commence par le pétrole quand même, parce que c'est évidemment l'énergie ou la source d'énergie la plus sensible?
Alors, on peut commencer par le pétrole, en sachant que c'est un cas très particulier dans le panorama de l'énergie chinoise, puisqu'il est très lié à un secteur précis qui est celui du transport. Malgré ce cas très particulier, c'est bien sûr un secteur absolument stratégique et très vulnérable pour la Chine, puisque c'est un secteur dans lequel la Chine importe aujourd'hui à peu près 60% de sa consommation, ce qui va à l'encontre d'une politique traditionnelle qui a été une politique de réduction de la vulnérabilité du pays par rapport à l'extérieur.
Oui, puis la question d'ailleurs des nouvelles énergies, on en parlera tout à l'heure, doit être relativisée, puisque dans le monde, et je cite de mémoire, le pétrole fournit 75% des énergies pour les transports, tout transport confondu. Donc là, on reste quand même dans des grands fondamentaux.
Oui, tout à fait, avec une situation donc qui est comparable en Chine et qui par contre sous-tend aujourd'hui une grande question qui est celle de l'éventuel avenir du véhicule électrique en Chine, qui est une question absolument fondamentale pour tous les constructeurs automobiles. Vous avez en ce moment le salon de l'automobile qui se déroule à Pékin et avec un énorme accent qui est mis sur les véhicules électriques, en sachant que la question n'en est qu'à ses tout débuts.
Alors on peut continuer pour les fossiles après le pétrole par le gaz. Quelle est là aussi la situation générale?
Alors la situation du gaz, en fait, c'est un secteur qui se développe très rapidement en Chine, alors à cause d'un autre fossile qu'on va forcément évoquer, qui est le charbon. C'est-à-dire que dans les efforts pour remplacer le charbon, le gaz joue un rôle déterminant pour la Chine, avec une situation qui peut inquiéter en partie Pékin, qui est également celle qui se répéterait, comme pour le pétrole, d'une dépendance aux importations. La Chine aujourd'hui importe à peu près un tiers du gaz qu'elle consomme, et avec là un grand point d'interrogation sur l'avenir par rapport à l'évolution de cette situation, qui est la question du gaz de schiste en Chine. En sachant que la Chine dispose des premières réserves mondiales de gaz de schiste, par contre, elle n'est pas encore aujourd'hui à même de les exploiter à grande échelle pour des questions techniques.
Pour des questions techniques. Alors d'ailleurs, ça pose la question de savoir s'il y a un phénomène d'opinion publique qui pourrait se développer en Chine pour ou contre cette technique extrêmement polluante d'ailleurs. C'est une autre question. Alors en ce qui concerne le charbon, alors là, elle en regorge, si j'ose dire, mais c'est horriblement polluant.
Alors effectivement, la question du charbon est vraiment centrale, en sachant que lorsqu'on évoque effectivement un changement de la politique énergétique chinoise aujourd'hui, au cœur de la question, on trouve le charbon. C'est-à-dire que la Chine produit la moitié du charbon mondial. C'est une source d'énergie qui soutient aujourd'hui, enfin qui tient aujourd'hui un rôle essentiel dans sa production, notamment d'électricité. Presque 80% de l'électricité produite en Chine aujourd'hui dépend du charbon.
Oui, c'est d'ailleurs le même pourcentage que la France, mais pour nous c'est le nucléaire, 80% ouais. Ou 75% environ.
c'est la différence. Et alors la différence se voit très simplement dans l'atmosphère des grandes villes chinoises. Hein. C'est-à-dire que le phénomène du smog a atteint en Chine depuis quelques années des proportions sans équivalent historique et sans équivalent ailleurs dans le monde. Et c'est ce qui a déterminé un changement absolument radical de la politique énergétique chinoise, puisque les autorités sont conscientes du fait que ce serait peut-être le facteur qui pourrait déclencher une contestation de grande ampleur. Du coup, on a eu aujourd'hui alors vraiment un changement radical, c'est-à-dire que la Chine, pendant toutes les dernières années, a construit énormément de nouvelles centrales au charbon. On a eu un pic autour de 2012, au cours duquel la Chine construisait en moyenne à peu près 2 centrales thermiques nouvelles par semaine, ce qui est absolument énorme.
C'est inimaginable, en tout cas,
effectivement,
oui, en proportion.
À l'échelle européenne, ça paraît difficile à imaginer. Et on a eu un pic qui, d'après les statistiques, s'est répété paradoxalement en 2015, mais avec une explication toute simple, c'est qu'un certain nombre d'opérateurs ont certainement senti venir des mesures de limitation. Et les mesures de limitation, aujourd'hui, on y est, puisque en mars 2016, l'autorité de régulation de l'énergie a suspendu toutes les constructions de nouvelles centrales dans une quinzaine de régions chinoises qui sont celles les plus importantes pour le charbon. Et aujourd'hui, l'ensemble des projets sont gelés dans le pays à cause justement de cette volonté de limiter la place du charbon.
Alors je ne sais pas si on a le temps de passer tout en revue, Jean-François Dufour, mais dire un mot de l'hydroélectricité et des énergies renouvelables, avant le nucléaire peut-être.
Oui, alors effectivement, la question c'est qu'aujourd'hui la Chine, pour suppléer au charbon, a besoin de toutes les autres sources d'électricité. Donc si on fait, sans trop s'attarder, un petit passage en revue, l'hydroélectricité joue un rôle majeur. La Chine a doublé sa capacité hydroélectrique au cours des 10 dernières années. Sur les énergies renouvelables que sont l'éolien et le solaire, c'est là qu'on a eu les évolutions les plus spectaculaires. La Chine est devenue le numéro un mondial en capacité installée pour les deux aujourd'hui. En sachant que sur un cas comme le solaire, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que ça s'est conjugué avec des questions de politique industrielle.
Et des d'exportation de panneaux solaires, je crois que ce sont les champions dans le monde.
Tout à fait. Et alors justement, jusqu'en 2012, la Chine produisait plus de la moitié des panneaux solaires mondiaux, mais elle exportait 90% de cette production. À partir de 2013, elle s'est trouvée confrontée à des mesures de limitation de ses exportations par les États-Unis puis l'Europe, qui étaient ses principaux marchés. Et en réaction, elle a lancé un énorme programme de développement domestique pour permettre à ces producteurs de panneaux solaires de survivre, tout en respectant justement sa volonté de diversifier ses sources d'énergie. Et enfin, effectivement, on peut évoquer le nucléaire, qui lui aussi est mis à contribution, qui a connu un coup d'arrêt après 2011 à cause de la catastrophe de Fukushima, dont la Chine voisine a voulu tirer les leçons en termes de réexamen de ses projets, mais qui est aujourd'hui réenclenché avec une trentaine de réacteurs en construction.
Oui, j'ai vu qu'elle c'est d'ailleurs l'Asie qui construit des réacteurs nucléaires dans son ensemble, c'est la région du monde, ce qui n'est plus le cas évidemment pour l'Europe. Merci en tout cas de ce tableau très très utile, Jean-François Dufour, et je rappelle que vous êtes donc responsable du China Control Panel de Montsalvi Consulting et franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger. Merci à vous donc, et demain, ou plutôt lundi, il s'agira de l'Espagne, l'impasse politique, et notre invité sera Benoît Pellistrandi.